Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Arjuna Andrade, Louis Drillon et Julie Delabrosse, à la réalisation Elisabeth Miro, prise de son Emmanuel Armingue.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nouvelle semaine consacrée à la pauvreté après la présentation d'un plan de lutte par le gouvernement la semaine dernière. Une pauvreté économique bien sûr, mais aussi sociale et culturelle. Dès 1849, Victor Hugo s'insurgeait contre l'incapacité de la société à éradiquer l'extrême misère dans un grand discours devant l'Assemblée constituante. Il évoquait alors ses rues, ses maisons, ses cloaques, où des familles entières vivent pêle-mêle. Hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture que des monceaux infects de chiffons en fermentation. Un siècle et demi plus tard, quels sont les nouveaux visages de la pauvreté? Comment la définir et comment la mesurer? Et qu'est-ce que nos représentations du dénuement disent de notre société? On en parle dans l'heure qui vient. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. La pauvreté au-delà des clichés, on en parle avec Nicolas Duvoux, professeur de sociologie à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, rédacteur en chef de la vie des idées.fr et auteur du Que sais-je, les inégalités sociales, paru au PUF l'année dernière. À 14h50, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
Que vous attendez pour foutre le corps avec nos valises ? Hein ? Allez, reniflez-moi ça, sentez-moi ça, ça sent bon. Vous qui mangez que du boudin à la sure et buvez de l'eau du robinet. Vous avez à bouffer pour 3 semaines là-dedans. Eh ben allez-y, quoi. Vous savez bien qu'on n'ira pas se plaindre. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Hein? Alors allez-y. Regardez, tiens, ils bougent même plus. Puis après ça, ils iront aboyer contre le marché noir. Salaud de pauvre.
Bonjour Nicolas Duvoux.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On entendait un extrait de La Traversée de Paris, un film de Claude Autant et Lara sorti en 1956 avec Louis de Funès, Bourville et bien sûr Jean Gabin. Salaud de pauvre, on reconnaît l'expression que Coluche a popularisée dans les années 80 pour dénoncer justement cette vision des pauvres méritant leur sort. Or hier dans les jardins de l'Élysée, on va commencer avec l'actualité, Emmanuel Macron a déclaré à un jeune chômeur qu'un travail ça se trouve en, je cite, traversant la rue. Est-ce que selon vous, on assiste à un retour de la culpabilisation des plus pauvres?
Oui, cette citation, elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large en réalité, où c'est depuis une quinzaine, presque une vingtaine d'années, qu'on observe dans la société française, mais elle n'est pas du tout isolée de ce point de vue-là des autres sociétés démocratiques et libérales, on observe un retour à une forme de responsabilisation. Le terme de culpabilisation, il entraîne, c'est un registre peut-être encore plus extrême, ou en tout cas une responsabilisation accrue des personnes qui sont en situation de difficulté. Et ce qui est en lien évidemment avec tout un ensemble de transformations de ces populations, de qui est concerné et quelle représentation la société s'en fait.
Et cette idée selon laquelle un emploi se trouve facilement, puisqu'il y a beaucoup d'emplois non pourvus et souvent mobilisés par le politique. Or, il y aurait environ 300 000 emplois non pourvus chaque année contre 3,5 millions de personnes sans aucun emploi. C'est un chiffre qui date d'août 2017. Donc il s'agit surtout de rhétorique selon vous ?
Il y a évidemment d'abord un décalage quantitatif, mais il y a surtout, et c'est ce que l'extrait qui a circulé hier démontre, c'est qu'il y a des décalages qualitatif entre la formation, entre les exigences même des institutions et puis la réalité des emplois disponibles. Là, au fond, ce qui est tout à fait frappant, c'est que la personne, semble-t-il, elle a été inscrite à Pôle emploi et elle a suivi, et donc elle a une formation, donc il est cohérent pour elle de se diriger vers une certaine zone du marché du travail et pas vers d'autres. Et donc il y a bien cette idée que dans l'esprit des pouvoirs publics, encore une fois, c'est pas une question personnelle, c'est une tendance beaucoup plus large, qu'il faut envoyer des messages et si besoin par la coercition pour que les personnes qui sont sans emploi, quand elles le peuvent, ça va être la question des adultes valides au fond, qui est au cœur des enjeux et des dilemmes de notre société vis-à-vis de la pauvreté, bien pour que ces adultes valides retournent vers le marché du travail et on peut dire quelle que soit la nature du travail, quelle que soit sa qualité et quelles que soient les exigences qu'il peut faire porter sur la personne.
Alors Nicolas Duvoux, pour bien comprendre et définir cette pauvreté, il faut revenir un petit peu en arrière. Et dans l'histoire, on a le sentiment qu'on a cessé d'osciller entre une volonté d'éradiquer la pauvreté et la tentation de la criminaliser ou de la stigmatiser. Dans son essai sur le principe de population de 1798, Malthus écrivait déjà, je cite, « Il faut que l'assistance ne soit point exemple de honte ». C'est un aiguillon indispensable pour le bien général de la société.
Oui, il y a là un principe qui va trouver, et notamment c'est le grand économiste Karl Polanyi qui l'a montré dans son ouvrage La Grande Transformation, quand il étudiait
dont on parlait ce vendredi.
Les transformations des politiques d'assistance en Angleterre autour du début du 19e siècle, en 1834 pour être précis. Il disait, voilà, on a là l'application des principes malthusiens, à savoir qu'il faut que l'assistance, quelque part, fasse mal pour pousser les gens à retourner sur le marché du travail. Il y a cette idée que à rendre le sort trop confortable aux pauvres, on risque de les inciter à rester dans leur situation et à ne pas justement adopter les comportements qui sont souhaitables. Mais juste pour revenir sur votre question, je crois qu'avant même Malthus, si on regarde à travers notamment grâce aux travaux de l'historien Borislav Guéremec, qui a écrit un ouvrage très important qui s'appelait La potence et la pitié sur on va dire l'économie morale du traitement de la pauvreté à la période de ce que Foucault appelait le grand renfermement, donc à l'époque classique, il montre que en fait la prise en charge, la volonté d'aider, de secourir pour des motifs notamment religieux et la criminalisation pouvaient tout à fait aller de pair. C'est-à-dire qu'elles sont les deux faces d'une même pièce. Et donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on n'a jamais de jugement simple et on n'a jamais de politique qui soit simple. Je pense qu'on le verra quand on abordera les questions contemporaines.
Et cette vision ne cesse de s'accentuer au cours du 19e siècle avec la révolution industrielle et alors qu'émerge justement ce prolétariat qui renouvelle en profondeur l'image du pauvre. Nicolas Duvoux.
Oui, il la transforme parce qu'en fait, on a dans un horizon qui est un horizon largement qui a été largement façonné par le christianisme. Hein, la pauvreté, c'est à la fois un état relativement stable. C'est une réalité traditionnelle au sens où elle est considérée comme quasiment intangible des sociétés. Et puis, elle a une forme de justification religieuse parce qu'après tout, le pauvre aussi l'image du Christ sur cette terre. Ce qui change avec la révolution industrielle, fondamentalement, et avec l'avènement du prolétariat, c'est qu'on a toute une pauvreté, et c'est, je crois que c'est tout à fait essentiel, qui n'est pas les gens ne sont pas pauvres quand ils sont des prolétaires parce qu'ils sont à la marge du progrès, mais ils sont pauvres parce qu'ils sont au centre du progrès, parce qu'ils sont au centre des avancées technologiques, industrielles de la société. C'est évidemment Marx qui a mis l'accent sur cette très très grande spécificité. C'est pour ça qu'il y voyait aussi peut-être une vocation messianique du prolétariat. Mais c'est pour une dimension très 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 simple, c'est que les prolétaires ne sont pas à la marge de la société. Et donc de ce point de vue-là, il y a comme un basculement où les prolétaires d'usine notamment sont finalement une figure de dépossession. Et tout à l'heure, vous avez cité Victor Hugo, mais Victor Hugo dans Les Misérables a montré à quel point il y avait une corrosion qui était bien plus que physique dans cet état des classes laborieuses urbaines du 19e siècle. Il y a une corrosion bien plus que physique. Et donc finalement, dans les villes, dans l'industrie, émerge cette nouvelle réalité qui frappe, qui saute aux yeux des contemporains.
Et il faut attendre la fin du 19e siècle pour que la pauvreté soit définie par le critère de l'intervention publique. Sont pauvres désormais ceux qui ont donc besoin de cette assistance au-delà des considérations morales. Et la première définition sociologique de la pauvreté, elle nous est donnée par le philosophe et sociologue allemand Georg Simmel.
Oui, absolument. La thèse de Simmel, si on peut dire, c'est que est pauvre celui qui reçoit une assistance de la collectivité. Donc ce est pauvre celui qui reçoit de l'extérieur le statut de pauvre, qui en tire une identité négative. Il est pauvre et rien que pauvre. Finalement, c'est ça qui le définit comme de l'extérieur. Comme Sartre disait, c'est l'antisémite qui fait le juif, c'est l'antisémitisme qui fait le juif. C'est de l'extérieur que l'identité est donnée par la réaction de la collectivité. Et là où Simmel dit, il y a deux choses importantes. La première, c'est que Simmel montre que l'assistance est profondément conservatrice. C'est-à-dire qu'elle a vocation à maintenir la société, à la maintenir l'état de la société et finalement à éviter de placer les gens dans des situations tellement insupportables qu'elle finirait par pouvoir remettre en cause l'ordre social. Donc ça, c'est aussi une question sur laquelle on peut toujours réfléchir aujourd'hui. Elle est plus que jamais, je pense, d'actualité. L'autre point, c'est que, comme vous l'avez dit, Zimmel parle, donc formule cette thèse à la toute fin du 19e siècle, qui est exactement le moment où les prémices, mais en Allemagne, les prémices sont beaucoup plus avancées qu'en France, les prémices de la construction de l'État social, donc de cette grande réorganisation de nos sociétés autour des principes de protection sociale, se met en place. Donc, quelque part, Zimmel anticipe le développement de ces identités qui vont être liées au statut de l'État social dans l'ensemble des pays développés.
Alors, on va écouter une autre définition de la pauvreté. On va faire un saut dans le temps. Cette définition-là remonte à l'après-guerre.
Je pense que c'est surtout la misère morale qui met en état d'infériorité un individu. La misère physique, on s'y accoutume. Et l'être humain a donné, au cours de l'histoire, dans cet ordre d'idées, des exemples multiples de cet accoutumant. Ah, je peux vous répondre ceci, les hommes de ma génération, lorsqu'ils ont vécu pendant les tranchées, pendant de longues années, ont vécu comme les hommes de la préhistoire, et ils sont arrivés tout de même à s'en accommoder. Mais pour moi, la grande misère, celle qui détruit complètement les forces vives d'un individu, c'est la misère morale. C'est la sensation de l'abandon. C'est la détresse qui vient de l'idée qu'on ne peut secourir les êtres qui vous sont chers. C'est l'état pénible où l'on se trouve en pensant que ces mêmes êtres chers peuvent avoir besoin de secours qu'on ne peut pas leur donner.
Pierre Chanlaine, vice-président de la Semaine de Bonté, président de l'Association des écrivains combattants, c'était en 1949. Alors qu'est-ce que cette définition nous dit de la vision des pauvres à la fin des années 40, Nicolas Duvoux ?
Elle nous dit, il y a un trait qui est peut-être plus intemporel, c'est qu'il y a dans la pauvreté, on a évoqué le 19e siècle et cette réalité des ouvriers d'industrie dans les grandes villes, il y a dans la pauvreté des dimensions matérielles, évidemment de dénuement, de manque et d'impossibilité, on peut dire, de remplir ses devoirs sociaux fondamentaux envers ses proches, par exemple, ce qu'on se représente comme ses devoirs sociaux fondamentaux. Et il y a aussi une dimension morale tout à fait essentielle. Et quand on parlait du paupérisme, il y avait toujours cette idée que finalement, il y avait au-delà du dénuement matériel extrême, eh bien, il y avait une corrosion, il y avait une forme de dégénérescence qui était associée à l'existence des taudis ou des populations qui, comme ça, campaient dans les grandes villes. Donc, on retrouve cet aspect-là dans cet extrait. On retrouve aussi l'idée, finalement, qui va être annonciatrice, là aussi, des développements des décennies suivantes, que d'abord, il y a l'isolement. Il y a l'isolement, il y a cette dimension. Il faut bien avoir à l'esprit qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusque dans les années 70, la pauvreté, elle concerne d'abord les personnes âgées. Les systèmes de retraite commencent à être inventés, mais la réalité de leur capacité à endiguer la pauvreté des personnes âgées, des indigents, elle est très limitée.
Donc, et cela jusqu'aux années 70.
Jusqu'aux années 70 à peu près, et même jusqu'aux années 80, la tendance à la pauvreté diminue parce que précisément ces systèmes de retraite sont en capacité d'endiguer ce qui semble être à beaucoup une fatalité, c'est-à-dire dans la sociologie anglaise, on voyait une courbe, on est pauvre jeune, quand on est actif, on va mieux, et puis on redevient pauvre à l'âge de la retraite. Ou à l'âge de la vieillesse. Donc ça, c'est vraiment une réalité qui était presque considérée comme naturelle et que nos sociétés ont transformé. Et donc c'est ça qu'on entend là. Il y a la question de l'isolement et puis il y a aussi tout simplement une forme d'humanisme dans cette citation qui montre qu'à l'époque, la lutte contre la pauvreté, elle n'est pas détachée des enjeux, des combats, des luttes qui ont été menées dans les années qui précèdent. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui a été très très présent dans les réflexions du Conseil national de la résistance, par exemple, ou en Angleterre du rapport Beveridge qui a mobilisé la société anglaise autour de l'effort de guerre pour permettre d'endiguer là aussi les principaux maux sociaux de la famine, du dénuement, etc.
Alors on va voir, Nicolas Dubout, comment cette pauvreté s'est déplacée au cours des 50 dernières années. Mais pour le savoir, il faut pouvoir la calculer, cette pauvreté. Et dans la plupart des pays non européens aujourd'hui, la notion qui prévaut, c'est celle de pauvreté monétaire absolue. Qu'est-ce qu'elle signifie et d'où vient-elle, Nicolas Dubout ?
Alors, en fait, les définitions absolues de la pauvreté, elles se réfèrent à la définition d'un panier de biens minimal, sans lesquels il est impossible de survivre. Donc les économistes, ont beaucoup raffiné, développé leur réflexion, notamment grâce aux apports d'Amartya Sen, hein, évidemment, qui a complètement contribué à enrichir le contenu de ces analyses. Dire voilà, il y a des paniers de biens fondamentaux sans lesquels, en gros, on est dans une situation de dénuement absolu. Alors, faut bien comprendre qu'en plus, c'est ce qui est un tout petit peu compliqué, on raisonne en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'on fait en sorte de neutraliser les différences de prix entre les pays, ce qui fait qu'il y a tout un ensemble de conventions statistiques, hein, qui rendent l'appréhension de cette pauvreté monétaire extrême tout à fait complexe.
La Banque mondiale, par exemple, retient comme seuil d'extrême pauvreté 1,9 $ oui, par jour. Et les États-Unis, eux, ce que vous écrivez, c'est qu'ils font passer la ligne de pauvreté, cette fameuse ligne de pauvreté qui a été inventée par Charles Booth au 19e siècle. Ils la font passer à 25 100 $ par an pour, oui, une famille de 4 personnes.
Voilà. Alors là, effectivement, c'est très différent parce que quand la Banque mondiale raisonne, elle raisonne très largement avec à l'esprit les pays en développement. C'est ce qu'on constate, ce que montre la Banque mondiale, c'est qu'on a une espèce de, et du fait du développement économique rapide, notamment de la Chine et de l'Inde, on a une sorte de spécialisation, entre guillemets, de concentration de la pauvreté extrême en Afrique, ce qui est alors tout à fait évidemment préoccupant. Mais disons qu'on voit bien à quelle réalité cela renvoie. Pour les États-Unis, on a effectivement une ligne de pauvreté dont les prédécesseurs avaient été issus de la réflexion Charles Booth en Angleterre à la fin du 19e, début du 20e. Là, c'est vraiment au moment des mandats qui, dans les années 60, les mandats successifs de Kennedy et puis de Lyndon Johnson, qui ont mis la lutte contre la pauvreté tout en haut de l'agenda politique, qui a eu une très très grande réflexion politico-administrativo-statistique, si on peut dire, qui a essayé de dire c'est quoi la pauvreté dans notre pays. C'est évidemment pour définir un objectif, il faut une mesure, et donc on s'était dit voilà, il faut définir la pauvreté. Et là, on avait adopté une mesure un petit peu semblable, c'est-à-dire qu'on avait défini un panier de biens. Et de manière un petit peu arbitraire, on avait dit, ben voilà, en gros, il faut 3 fois le panier de biens, et donc on va suivre une ligne de pauvreté qu'on va fixer à 3 fois le panier de biens qu'on considère comme minimal. Alors, le point important qu'il faut retenir de ça, c'est que pour la définition de la pauvreté, elle est indexée à des enjeux politiques, c'est-à-dire que c'est avant tout le politique qui crée cette nécessité pour les statisticiens d'inventer des mesures et de les raffiner. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand on dit on prend un panier de biens et on le multiplie par 3, on peut se demander pourquoi pas par 4 après tout. Et donc il y a bien une forme de normes sociales qui s'exprime à travers les définitions de la pauvreté. Et ça, c'est le dernier point, mais en Europe, on va sans doute en parler, on raisonne de manière relative. Et ça dit bien quelque chose, parce que les États-Unis et les pays européens sont des pays développés, des économies industrielles avancées. Pourtant, dans les deux cas, on définit la pauvreté de manière différente. Ça dit quelque chose. Ça dit qu'aux États-Unis, on considère que le rôle de l'État, donc c'est de limiter le dénuement absolu. 25 000 $ par an pour une famille de 4. En Europe, une définition relative, 60% du revenu médian, ça veut dire que le rôle des pouvoirs publics, implicitement, c'est d'éviter un écart trop grand entre des parties de la population trop conséquentes et ce qu'on considère comme l'européen ou le français moyen.
Donc la manière de calculer la pauvreté en dit long sur aussi les intentions politiques. Et pour définir la pauvreté, est-ce que selon vous, il vaudrait mieux partir des conditions de vie des ménages et des manques qu'ils subissent, qu'on appelle la pauvreté dite en conditions de vie ?
Alors, je pense que toutes les définitions sont utiles. En réalité, il y a...
Elles sont complémentaires.
Elles sont complémentaires. Il y a une pauvreté monétaire. En fait, saisir la pauvreté, c'est extrêmement difficile parce que chacune de ces conventions... De ces formes de mesures, la pauvreté monétaire, la pauvreté en conditions de vie, ce sont des constructions statistiques extrêmement complexes. Et si vous faites bouger un paramètre la réalité change, alors qu'en fait la réalité des gens n'a pas changé, elle. Donc c'est pour ça que Georges Dimmel avait dit attention, on peut pas avoir, c'est un message extrêmement important, il faut se méfier des mesures qui prétendent nous donner la vérité de la pauvreté. La pauvreté, elle est très largement insaisissable de ce point de vue. C'est-à-dire, il y a que la relation à l'État qui nous permet de le saisir. Alors ça pose encore d'autres problèmes, parce que les travailleurs pauvres qui ne sont pas assistés, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, donc ça pose un tas de questions, mais je pense que le point méthodologique, si on peut dire, essentiel, c'est de ne pas opposer les définitions, de les regarder les unes et les autres. Elles peuvent nous dire des choses, par exemple la pauvreté en conditions de vie, parce qu'elle elle nous montre quelque chose qui est très intéressant, elle baisse. C'est la seule mesure qui baisse vraiment de manière régulière. Ça nous dit que, par exemple, la qualité des logements augmente. De manière générale, il y a du mal logement. Il y a évidemment des situations de très grande exclusion vis-à-vis du logement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais cette mesure nous dit, de manière générale, en moyenne, la qualité du logement augmente dans la population sur les 30 ou 40 dernières années. Voilà, c'est une information. Peut-être que les gens qui vivent dans ces logements n'ont pas de quoi se nourrir ou manger, mais ça nous donne des informations ces mesures, elles sont tout à fait intéressantes quand on les compare et qu'on les prend ensemble.
Alors ces mesures, justement, elles nous permettent de comprendre que la pauvreté s'est déplacée vers de nouvelles catégories, comme on va l'entendre dans ce reportage.
Je suis venue un petit peu en marche arrière, contrainte et forcée, avec une grande honte d'être obligée de faire appel à la solidarité. Il n'y a pas de choix. Je ne pouvais plus joindre les deux bouts. Donc, il m'a bien fallu un bon mois pour arriver à accepter le fait de venir et de me faire nourrir alors que j'ai nourri pas mal de monde. En tant qu'ex-chef d'entreprise, c'est moi qui nourrissais, entre guillemets, un petit peu mes personnes. Et là, bascule complète.
Vivez avec combien par jour aujourd'hui, pareil ?
3,50 € pour me nourrir. Une fois tout payé, l'obligatoire, 3,50 €.
Beaucoup de personnes seules, beaucoup de jeunes femmes seules avec enfants, et beaucoup aussi, de plus en plus, de retraités qu'on ne voyait pas du tout avant. La roue tourne, un verre de fortune, et ça va vite après.
Extrait d'un reportage de France 24 qui a été diffusé en 2013. On l'entendait, de nouvelles catégories, beaucoup de jeunes et également un retour des personnes âgées qu'on croyait avoir sorti de la pauvreté, comme on le disait tout à l'heure, à partir des années 70-80.
Oui, absolument. Je crois que la grande modification, la grande transformation intervenue au cours des dernières décennies, c'est le basculement du cœur du centre de gravité des populations touchées par la pauvreté, de la vieillesse à des populations beaucoup plus jeunes, d'âge actif, qui sont frappées par le chômage de masse. Ça, c'est vraiment la grande mutation qui s'est opérée, dont nos sociétés ont pris conscience très douloureusement dans les années 80 et 90. On s'est rendu compte qu'il y avait une partie de la population qui était valide, d'âge actif, et qui pourtant ne trouvait pas à s'intégrer dans la société. Donc c'est pour ça que le terme d'exclusion, finalement, a ramassé ou a condensé ce sentiment vraiment d'être mis à l'écart de la société de manière extrêmement, extrêmement brutale. Et donc, il y a un rajeunissement de la pauvreté. Et la pauvreté, elle est de plus en plus urbaine. Ça, contrairement à des débats parfois sur est-ce qu'on n'en fait pas trop pour les centres-villes ou les quartiers périphériques. Non, la pauvreté, elle est bien concentrée dans ces zones urbaines. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pauvreté rurale, évidemment. C'est pas ça du tout. Et puis, elle touche de manière tout à fait spécifique, de manière tout à fait aiguë, des catégories de la population. Ça a été évoqué, les familles monoparentales, alors c'est 80% du temps, c'est des femmes qui élèvent seules leurs enfants, et ça nous dit quelque chose sur le fait que ces personnes, ces ménages, sont à la croisée de beaucoup de grandes transformations de nos sociétés. C'est-à-dire qu'il y a la transformation dans l'emploi, avec le développement des emplois à temps partiel, le chômage, toute cette création d'une population qui est surnuméraire par rapport aux besoins du marché du travail. Et puis toutes les transformations de la sphère privée, c'est-à-dire les séparations, les divorces qui ont très très fortement augmenté au cours des décennies précédentes. Et vous avez des parties de la population qui sont vraiment à la croisée de ces différentes formes de vulnérabilité. Et c'est ça que mesure finalement la pauvreté. Donc les chiffres nous disent des choses. Je crois qu'il faut les resituer dans les tendances sociales de fond qui leur donnent sens.
Oui, parce qu'en effet, il y a la pauvreté d'un côté, puis il y a de l'autre le sentiment de pauvreté. Et ce que vous notez, c'est que l'on se déclare moins souvent pauvre découvre quand on vit en famille que lorsqu'on vit seul.
Oui, alors ça, c'est issu d'une recherche que nous menons avec Adrien Papuchon, qui donc l'idée à partir de l'analyse du baromètre d'opinion de la DRES, qui est le service statistique du ministère des Solidarités et de la Santé, et en regardant ces données, on pouvait voir qui se déclarait comme pauvre. À l'instant T. Et c'est intéressant parce que par rapport aux trois définitions qu'on a évoquées, la pauvreté monétaire, la pauvreté en conditions de vie et puis le critère, on va dire, zimmelien d'assistance par l'État, ce sentiment de pauvreté nous montre autre chose. Il nous fait ressortir, par exemple, le sentiment de pauvreté très intense des retraités locataires. Parce que les retraités locataires, ce sont des gens qui ont des revenus qui sont au-dessus des seuils de pauvreté monétaire et qui pourtant se sentent pauvres parce que ils voient bien que leurs dépenses augmentent plus vite que leurs pensions qui n'augmentent pas ou très peu, alors surtout quand elles sont pas indexées sur l'inflation évidemment, mais il y a là des zones de fragilité, des zones d'insécurité sociale que les critères habituels de mesure de la pauvreté ne nous permettaient pas de voir.
Et cela alors même que les 18-24 ans, par exemple, ne se sentent pas pauvres.
Voilà, alors ça c'est l'autre décalage, dans l'autre sens. Pour ça c'est intéressant de réfléchir avec en croisant ces données. Si on regarde que le sentiment de pauvreté, on se dit c'est bon, les jeunes ne sont pas pauvres puisqu'ils ne se sentent pas pauvres. Mais quand on croise cette information avec la pauvreté monétaire, où les jeunes sont très surreprésentés en matière de pauvreté, on est amené à comprendre que leur situation, effectivement, elle est très, très délicate à vivre et que donc ils ont affaire à du dénuement et qu'il y a vraiment beaucoup de choses que les associations notamment ont vues et qui est liée au fait qu'ils n'ont pas le droit jusqu'à 25 ans au revenu de solidarité active, donc il n'y a pas d'assistance pour eux. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ne se sentent pas pauvres. Mais le point, c'est qu'ils pensent que ça ira mieux. Ce qui est complètement l'inverse, évidemment, des retraités locataires pour qui l'idée que ça peut aller mieux par un changement de leur situation est complètement inenvisageable. Donc la pauvreté, elle, c'est une réalité qui va faire jouer entre eux de manière non mécanique, mais néanmoins assez structurée, des éléments différents.
De la même façon qu'en famille, on se sent davantage protégé que quand on est seul.
Voilà, ça c'est tout à fait frappant aussi. Il y a une partie importante de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, ne se sent pas pauvre quand elle est avec un conjoint, en ménage. Alors ça c'est très intéressant, ça montre que l'environnement social, le soutien social, et au fond, il contribue vraiment à protéger l'individu. Donc, il y a bien des dimensions d'isolement qui participent de cette réalité. En tout cas, du point de vue que les gens expriment.
Et il y a aussi une nouvelle catégorie qui est celle des travailleurs pauvres qui a émergé. Et donc, on a l'impression aujourd'hui que même l'emploi ne permet pas de préserver de la pauvreté.
Oui, alors absolument. Ça, c'est une des grandes mutations qui est liée au fond à. Alors, on a pris conscience du chômage de masse et en France, on a eu pendant assez longtemps, contrairement à ce qui se passe dans les pays, notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis, le sentiment que bon, il y avait quelque chose de terrible, c'était le chômage, mais que si ça pouvait avoir un avantage, je m'exprime évidemment, il faudrait mettre des guillemets, un avantage du chômage, c'était que ceux qui sont en emploi ne sont pas pauvres. Et ça, alors qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, la pauvreté laborieuse, elle c'est une réalité qui est très très bien identifiée depuis longtemps. Or, on constate en France que il y a de la pauvreté laborieuse, il y a des emplois à temps partiel, il y a des emplois très précaires qui n'assurent pas à l'individu la possibilité de subvenir à ses besoins, d'émarger au-dessus du seuil de pauvreté, mais surtout de s'inscrire de manière pérenne dans la société. Et donc, il y a cette réalité-là. Et il y a des instruments d'ailleurs de politique publique. La prime d'activité qui a remplacé le RSA, elle a vocation à étayer, à soutenir par le biais de la fiscalité les revenus de ceux qui n'en ont pas assez.
Alors est-ce qu'il vaudrait mieux un travail précaire que pas de travail du tout? Écoutons l'avis de Pascal Lamy, l'ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce.
Il y a des travailleurs pauvres en Allemagne, mais ils ont un job. Chez moi en Normandie, je connais des gamins qui ont 15 ans, dont les parents n'ont jamais bossé. Et là, quand je discute avec eux, on n'est pas sur la même planète. Ça, c'est fondamental. On ne peut pas garder 10% de chômage. Moi, je pense qu'il vaut mieux des petits boulots à 500 euros que pas de boulot du tout. D'accord. C'est ce que je pense.
Voilà Pascal Lamy, l'ancien directeur général de l'OMC, dans une interview pour TV5 Monde en 2014. Il vaut mieux des petits boulots à 500 euros que pas de boulot du tout. C'est l'éternel débat entre la France et l'Allemagne, Nicolas Duvaux.
C'est éternel dans la mesure où l'Allemagne a beaucoup changé. Je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'après la réunification dans les années 90, l'Allemagne était l'homme malade de l'Europe, on l'appelait souvent comme ça. Il y avait le coup de la réunification, il y avait beaucoup de choses compliquées à gérer. Sont intervenues les réformes du chancelier Schröder au début des années 2000. Les fameuses lois Hartz qui ont réformé l'indemnisation du chômage et l'assistance, et en mettant en place des mesures très très coercitives pour les personnes qui ne reprendraient pas les emplois qu'on voulait leur voir reprendre. Et donc l'Allemagne a très fortement changé de ce point de vue-là. L'Allemagne, le taux de pauvreté allemand a très très fortement augmenté au cours des dernières années. Aujourd'hui, c'est 17%, en France, c'est 14%. Donc l'Allemagne a doublé la France. Mais derrière les querelles de chiffres, il y a une question idéologique qui est très très bien résumée par l'extrait que vous venez de diffuser. La question idéologique, c'est le travail est-il plus souhaitable, y compris pour des raisons, et là je crois que c'est très clair dans l'argument, morale. Il y a une dimension morale permanente dans les débats sur la pauvreté, sur le retour au marché du travail des personnes d'âge actif et qui sont valides.
Et donc selon vous, si jamais on mettait en place en France l'équivalent des lois Hartz, est-ce que ce serait quelque chose de positif ?
Moi, je ne pense pas que ce soit tout à fait souhaitable qu'on s'oriente dans cette direction. Dans la mesure où l'expérience allemande n'a pas démontré, bien au contraire, une réduction de la pauvreté. Alors, la difficulté, c'est de calquer. Moi, évidemment, je pense qu'il est absurde. Il suffit de faire quelques entretiens avec des personnes dans cette situation pour comprendre qu'elles souhaitent retourner vers l'emploi, que travailler est souvent un désir extrêmement fort. La question, c'est la dimension coercitive, ce qui suppose de changer d'emploi, ce qui suppose de déménager, ce qui suppose tout un tas de conditions sociales, de possibilités, conduit à penser que c'est peut-être pas souhaitable à toute condition. Et je crois qu'il y a une erreur importante, et je finis là-dessus, de diagnostic sur, parce que l'Allemagne, effectivement, a des résultats économiques extrêmement impressionnants, hein, des excédents budgétaires, une capacité d'exportation inouïe dans le monde, mais c'est peut-être pas les lois Hartz qui ont créé ces avantages. Par contre, on peut penser que c'est les lois Hartz qui ont créé la pauvreté.
J'étais pauvre, j'aurais plus d'espoir, plus de rêves et bien plus d'exutoires. Si pauvre j'étais, j'aurais les sous en moins, les soucis en plus, vous en seriez témoin. Si j'étais pauvre d'esprit, j'aurais belle existence, même en danger, sans assistance. Si que j'étais les halls, j'aurais le rôle de résidence. Touche pas à mon banc, j'en ai la présidence. Pauvre neveu, pas dire sans talent ni ressources, juste que j'étoufferais soumise à des secousses. Si pauvre j'étais, je n'aurais plus rien à perdre, est vrai, de mieux jusqu'au jour où je décède. C'est vrai. Si j'étais pauvre, je serais sans suite royale, victime par des pauvres cons de noyade. Si pauvre j'étais, hypocalorique, je verrais la vie avec si peu de coloris. Si j'étais pauvre, je serais mauvais client, misérable amant, infect et repoussant. Riche veut dire tout pour moi, ma biche, je t'aimerais sans fin, même sur une péniche.
Ah, si j'étais pauvre, tu me dirais que tu t'en fiches. Ah, si j'étais pauvre, je chanterais. Ah, si j'étais riche. Ah, si j'étais pauvre, tu me dirais que tu t'en fiches. Ah, si j'étais pauvre, je chanterais. Ah, si j'étais riche.
Ah, si j'étais pauvre, je serais un emmerdeur, et je mettrais bien un croc dans ton hamburger. Je trouverai un berger allemand pour tenir compagnie. Faut compter 2-3 semaines pour qu'il devienne mon meilleur ami. Ah, si j'étais pauvre, je ferais de la peine. La peau sur les os, j'envirais les uns et les autres. J'habiterais dans une benne à ordures. Je pisserais sur les réverbères et je m'allongerais sur les verdures. Je fantasmerais sur les filles. Seul dans ma tête, je me ferais des films. Ah, si j'étais pauvre, je rêverais de pèse. J'irais sûrement faire la manche dans le 16. Car à BEZBAR, les gens ils te lâchent que des dinars. Ah, si j'étais pauvre, ma vie je la noire et dans le pinard. Ah, si je l'étais, je tenterais ma chance au loto. Et si j'en devenais riche, j'aurais de nouveaux potos. Ah, si j'étais pauvre, j'aurais quelques dents en moins. on me sentirait venir de loin. Je ne serais rien pour l'État. Si j'étais pauvre, je ferais comme si je l'étais pas.
Ah si j'étais pauvre, tu me dirais que tu t'en fiches. Ah si j'étais pauvre, je chanterais. Ah si j'étais riche. Ah si j'étais pauvre, tu me dirais que tu t'en fiches. Ah si j'étais pauvre, je chanterais. Ah si j'étais riche.
Ah si j'étais pauvre, je t'enverrai toi dandy, aux belles d'enseignes, aux lourds bagages, aux pleins caddies. Je lorgnerai ta pomme, mais tu ne me verrais pas. Je serai de la cloche que l'hiver m'énoterait pas. Tu sais ce nouveau pauvre, mais un ancien qui fait l'aumône. Je serai le sans-abri qui sourit à tes mômes. Il me tirait la langue ou me pointerait du doigt. Je perdrais ma raison, mais ratiché la foi, sans famille. J'aurais l'air famélique et la carence du mal sans feu mélangélique. Je mènerais une vie désordonnée, de bohème. Une vie où t'entends rarement je t'aime. Je me contenterai de peu, de mon verre à moitié plein. Même à moitié vide, ah ça ira bien, sûrement pas d'ici. J'emmerderai les aristocrates, j'éteindrai les lanternes de la France ingrate. J'aurai l'aigreur de l'homme que la vie n'a pas gâté, la gueule du gueux que la nature n'a pas raté. Je visiterai tes poubelles avant les éboueurs. Ce que tu jetterais un jour, un soir ferait mon bonheur. Des chaussettes dépareillées, des livres sur mon chien. Une vieille paire de baskets pour y mettre mes pieds puants. Je causerai à mon chat de mes mots, de ce qui me chagrine. Mes vêtements élimés porteraient le parfum de mon urine. Je m'endormirai dans ma gerbe en engueulant la lune. Aviner un œil ouvert sur mon infortune. Un
reste ah si j'étais pauvre de Scred Connection avec Yaroscar et Ange. Vous écoutez Entendez-vous l'écho sur France Culture et on est toujours avec Nicolas Duvoux pour tenter de comprendre la réalité derrière le terme de pauvreté. Et alors il faut maintenant peut-être penser la pauvreté avec la question des inégalités. Il est difficile de séparer les deux. Pour vous, Nicolas Duvoux, la pauvreté n'est pas tant le résultat d'un manque de ressources que le produit d'une relation sociale inégale avec le reste de la société.
Oui, alors d'abord, c'est inscrit, on pourrait dire, dans nos définitions. Tout à l'heure, on a évoqué le caractère, on peut dire, la lecture sociologique qu'on peut faire des indicateurs de pauvreté et définir la pauvreté de telle ou telle manière. Ça nous dit quelque chose sur la société dans laquelle on vit. Et en Europe, en tout cas, la pauvreté, elle est définie de manière relative, c'est-à-dire que c'est un certain écart avec les revenus moyens ou médians, pour être plus exact, qui définit la pauvreté. Mais alors, ça veut dire que d'abord, l'indicateur de ce qu'on le plus courant pour désigner la pauvreté, c'est un indicateur d'inégalité, parce que vous ne pouvez pas éradiquer la pauvreté avec cet indicateur, parce que si vous remontez le revenu des personnes pauvres, ça fait remonter le revenu médian et donc ça déplace le curseur, mais ça n'annule pas. Donc je pense qu'il faut bien prendre en compte tous les enjeux, toutes les conséquences de cette définition. Ça, c'est un point statistique. Le deuxième point, le plus fondamental, c'est qu'on analyse, souvent et de manière très justifiée la pauvreté à l'aune des manques, du dénuement, de ceux dont les personnes qui sont dans ces situations sont privées. C'est évidemment tout à fait essentiel. On manque d'options, on manque de choix, comme le disait le président de la République dans son discours. On manque de ressources. Ce faisant, on néglige le fait qu'il y a des relations avec d'autres parties de la société qui définissent ces manques et qui contraignent, qui structurent la situation dans laquelle les personnes se trouvent. Pour le dire simplement, je pense qu'on comprend, pour comprendre la pauvreté, il suffit pas de regarder comment les gens vivent, il faut regarder comment ceux qui ont des ressources se les sont accaparées, les ont accumulées, comment elles les accumulent pour comprendre cette relation.
On peut commencer par dire que les inégalités sont sur le devant de la scène, en particulier depuis que l'OCDE a mis en garde en 2008 contre la croissance des inégalités dans les pays développés. C'est alors un véritable changement de cap, Nicolas Duvoux.
Oui, c'est un changement de cap. Il faut rappeler que l'OCDE, c'est une organisation qui, comme le FMI, comme la Banque mondiale, a pendant des décennies promu les solutions pro-marché, donc de déréglementation des États sociaux, et qui soudain, tout d'un coup, en 2008, alerte sur le niveau des inégalités, sur le fait que, au fond, les dynamiques d'accumulation, d'accaparement des ressources, notamment, bon, ça c'est évidemment les travaux de Thomas Piketty et de ses collègues, tout en haut de la hiérarchie sociale, dans le 1%, comme on dit, font que ça ne ruisselle pas et qu'il y a une vraie tension qui apparaît dans les catégories inférieures, bien au-delà des personnes considérées comme pauvres. C'est-à-dire, les pauvres, c'est 14%, et l'OCDE dit à 40% de la population qui voit ses revenus stagner, décliner. Donc là, il y a effectivement une préoccupation qui s'exprime par une institution. Il y a aussi des mouvements sociaux, Occupy Wall Street. Enfin, on a des signaux qui convergent pour mettre sur le devant de la scène cette question des inégalités et de la répartition des richesses dans la société.
Alors, le sociologue et historien américain Charles Tilly distingue deux mécanismes producteurs d'inégalités, l'accaparement des ressources d'un côté et l'exploitation de l'autre. Est-ce que vous pouvez nous détailler, Nicolas Duvoux, cette perspective et nous dire ce qu'elle a apporté à la réflexion sur la pauvreté?
Oui. Elle permet de considérer le caractère multidimensionnel des processus qui créent les inégalités. Alors ça, c'est tout à fait essentiel. C'est que on raisonne beaucoup en France sur les inégalités socio-économiques, sur le fait d'être ouvrier, être cadre, être pauvre, être riche, mais il y a d'autres sociétés dans lesquelles, évidemment, il y a d'autres critères. Aux États-Unis, du fait du passé esclavagiste et ségrégationniste, la question de la race, là, il faudrait mettre des guillemets, la race non pas comme réalité biologique, mais comme relation sociale infériorisante ou valorisante d'ailleurs, eh bien, c'est un principe de structuration des inégalités tout à fait essentiel. Et je ne suis pas sûr que dans la société française d'aujourd'hui, ça ne joue pas un rôle important. Cette assignation identitaire. Donc Tilly nous dit, attention, il y a de l'économique, il y a de l'exploitation, il y a des processus de ce type-là, évidemment, mais il n'y a pas que. Il y a aussi des processus, on va dire, d'assignation identitaire, qui fait que un groupe dominant se donne un privilège, s'octroie un privilège et capte les ressources au détriment des autres parties de la population. Donc ça, c'est tout à fait essentiel, c'est de dire qu'il y a une pluralité des mécanismes qui produisent les inégalités, de la même manière qu'il y a une pluralité des dimensions des inégalités. Et le deuxième intérêt, est très, très, très important par rapport à ce qu'on disait juste avant, c'est qu'il dit, pour comprendre ces mécanismes inégalitaires, il faut partir de ceux qui captent les ressources plutôt que de partir de ceux qui en manquent. Parce que sinon, on va finir par considérer à un moment ou à un autre qu'il y a une forme d'essentialisation. C'est-à-dire, ils sont pauvres parce qu'ils sont comme ça, ou ils sont comme ça parce qu'ils sont pauvres. Donc, on va en rester en vase clos sur l'étude des populations qui manquent, sans percevoir le lien avec les autres parties de la société.
Alors, comment est-ce qu'on produit de l'inégalité, Nicolas Duvoux? C'est notamment à travers la discrimination. Et cette discrimination, elle peut être directe ou indirecte, comme elle peut être consciente ou inconsciente.
Oui, alors là, il y a évidemment la discrimination directe ou indirecte, c'est des notions qui sont entrées dans le droit français par transposition du droit européen. Et donc, c'est de faire la distinction entre ce qui relève de la discrimination directe par un préjugé, vous refusez un logement ou un emploi à une personne en raison de son origine, par exemple de sa religion supposée, j'en sais rien. Ça a été démontré que ça existait, donc c'est pour ça que je prends ce cas par exemple. La discrimination indirecte, c'est une autre dimension plus subtile, en quelque sorte, dans laquelle vous appliquez des critères en apparence neutres, mais qui en réalité vont exclure des populations. Donc c'était le cas d'une entreprise aux États-Unis dans les années 70, il y a un arrêt de la Cour suprême qui a inventé cette notion. Il disait, dans un environnement où les Noirs n'avaient pas eu accès à l'éducation, on va demander un diplôme pour avoir un emploi de manutentionnaire. C'est évidemment une manière d'occasionner un filtre. Et la deuxième distinction que vous soulevez entre consciente et inconsciente, ça c'est très important parce que la discrimination effectivement qui est consciente, j'ai un préjugé, et je ne veux pas voir ou parler à autrui. Et puis il y a ce qu'on pourrait appeler la discrimination statistique, qui est une manière pour les acteurs de raisonner sur ce qu'ils perçoivent de l'ordre social. C'est-à-dire, je suis, alors c'est un exemple un peu caricatural, vous m'en excuserez, mais je suis un chauffeur de taxi noir dans le New York des années 90, où il y a une très très forte criminalité qui est liée à la circulation de la drogue et des armes à feu. Et je sais que cette criminalité, elle est très très fortement répandue chez les Noirs. Donc j'ai moi-même être noir, eh bien je vais discriminer une personne qui a la même appartenance que moi parce que j'impute qu'elle a une probabilité plus forte d'avoir un comportement criminel ou délinquant à mon égard. Et donc la discrimination statistique, c'est un mécanisme beaucoup plus fin, mais pour lequel, en fait, on met en place des moyens d'action. Si on a fait aux États-Unis de la discrimination positive, de l'affirmative action, c'est pour dire, attention, si demain vous avez des Noirs qui sont médecins, avocats, présidents de la République, ça va changer ces formes d'associations conscientes ou inconscientes, surtout, que l'on fait toute la journée au sujet des populations et qui renforcent évidemment les discriminations.
On a vu, Nicolas Duvoux, que les outils statistiques étaient nombreux et particulièrement complexes. On a vu aussi que la pauvreté, ça pouvait être un sentiment de pauvreté et surtout qu'elle se déplaçait vers de nouvelles catégories de population. Mais on a quand même l'impression, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais globalement, qu'au fur et à mesure des dernières décennies, la pauvreté a reculé et pourtant que les inégalités se sont creusées. Alors comment est-ce qu'on peut maintenir ces deux éléments de front ?
Alors, ce qu'on peut dire, je pense que le diagnostic, il est un peu le même sur la pauvreté et les inégalités si on regarde en tendance, c'est-à-dire qu'il y a diminution. La période des Trente Glorieuses et ce qu'il a suivi avec la réorganisation des sociétés, elle a conduit à un resserrement des inégalités en même temps qu'une diminution de la pauvreté. Ce qu'on voit, c'est que dans les années 90 et 2000, on voit une stagnation et puis un retour à la hausse des deux phénomènes, pauvreté et inégalité. Mais si la pauvreté a baissé, c'est pour la raison qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la montée en puissance des systèmes de retraite qui ont fait sortir de la pauvreté les personnes qui étaient, encore une fois, quasiment considérées comme étant naturellement prédisposées à y émarger, c'est-à-dire les personnes âgées. Pour les inégalités, c'est très différent parce que de ce point de vue-là, on voit que les inégalités, elles augmentent par le très haut de la redistribution. Ça, c'est encore une fois les travaux des économistes qui ont su montrer à quel point, pour comprendre la dynamique des inégalités, notamment évidemment aux États-Unis, au Royaume-Uni, il fallait regarder vraiment des parties très 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 fines quantitativement de la société, mais très importantes parce qu'elles étaient en capacité de capter une partie très 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 grande des ressources. Et donc, on peut dire que les tendances sont un petit peu les mêmes malgré tout au niveau des chiffres, qu'elles sont très hétérogènes en fonction des pays parce que la France n'a pas connu cette explosion des inégalités que les États-Unis ou le Royaume-Uni à un moindre degré ont pu connaître. Mais par contre, c'est pas exactement les mêmes endroits de la structure sociale qu'on va regarder et c'est pas les mêmes processus qu'on va observer. Par contre, je pense qu'il faut les mettre en relation les uns avec les autres.
Alors, dans ce qui produit l'inégalité, on a parlé de la discrimination, il y a aussi la stigmatisation qui sanctionne les écarts par rapport à la norme. Pour vous, Nicolas Duvoux, il faut donc s'attaquer aux racines des inégalités. La redistribution seule ne suffira pas et il faut penser les différentes inégalités économiques et raciales ou de genre ensemble. Ça, c'est fondamental.
C'est-à-dire que je pense que la redistribution, elle opère dans un contexte, et si le contexte change trop, c'est-à-dire dans un contexte trop défavorable à la correction par la redistribution ne sera pas acceptée. Donc je pense qu'il y a là une relation entre la société, l'économie et puis le politique, où les termes doivent aller ensemble. C'était ça le message. Et sur l'autre point, je pense qu'il y a en France, en tout cas, la nécessité de regarder en face la question des discriminations, de ne pas la négliger au profit des seules inégalités socio-économiques qui sont absolument fondamentales et qu'il ne faut pas évidemment renvoyer au monde ancien, au monde d'avant, parce qu'elles restent présentes. Mais je pense qu'il faut articuler pour arriver à avoir la vision la plus complète et donc les instruments de réponse les plus efficaces.
Sur ce creusement des inégalités, je voudrais qu'on entende un nouveau témoignage.
Je gagne 688 euros et avec 688 euros, je ne peux pas m'acheter un frigo, c'est impossible. Parce que quand j'enlève les loyers, je paye l'électricité, je paye les gaz, pour que mes enfants ne se sentent pas démunis ou pauvres. Mais j'essaie d'expliquer à mes enfants, mais elles ne comprennent pas, parce que elles sont avec des amis qui, peut-être, qui n'ont pas ce genre de problème. Pour eux, ne pas avoir d'électricité, ça n'existe pas. Ne pas avoir un frigo, ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment difficile.
Un extrait d'une série de documentaires sur la pauvreté de Rémi Dibowski-Douat, proposé cette semaine dans LSD par Perrine Kervran. Premier épisode ce soir à partir de 17h, intitulé « Comment sortir de la honte ?». Nicolas Duvoux, on entend beaucoup dans le discours politique que l'idée que les pauvres sont désassistés, qu'ils profiteraient des allocations, alors que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la principale préoccupation, c'est plutôt le non-recours, c'est-à-dire le fait que des personnes qui pourraient prétendre à des aides ne les touche pas.
Oui, il y a un très grand décalage entre le discours politique et public en général et la réalité des situations. Ce que vous venez d'énoncer, ce décalage entre le discours sur les profiteurs ou la fraude d'un côté et le constat de l'ampleur du non-recours de l'autre, il est tout à fait saisissant. Je crois que ça témoigne en partie d'une forme de méconnaissance, c'est-à-dire ce qu'exprime la personne dans l'extrait que vous venez de diffuser, c'est de dire voilà. La situation que je vis ou que vivent mes enfants, elle est inaccessible, juste mentalement, à ses voisins, à ses amis. Évidemment, c'est une remarque qui a une très très grande pertinence et bien au-delà de l'échelle dont il est question.
Comment on explique ce non-retour ? On dit que la moitié des personnes éligibles au RSA ne le touchaient pas, selon une étude. Alors, c'est une étude qui date de 2011.
Ouais, alors, c'était le RSA Activité. Et le RSA Activité, il a été réformé précisément pour cette raison-là, par la prime d'activité qui facilite l'accès à la prestation. Mais même si on raisonne sur le RSA socle, c'est-à-dire le revenu de base minimal sans lien avec le travail qui est aujourd'hui disponible, on mesure à peu près à 30% la partie de la population qui pourrait y avoir droit. Et donc là ça veut dire tout un ensemble de choses. Ça veut dire qu'il y a une question d'information. Qui a accès à l'information, comment, dans quelle situation on peut demander administrativement. Il y a une forme de complexité, puis aussi une forme d'humiliation à aller demander. C'était dans un extrait que vous avez diffusé. Donc il y a ces éléments de stigmatisation, ces éléments d'information, ces éléments d'opacité du système bureaucratique qui contribuent à faire qu'il y a des droits qui ne sont pas demandés par ceux qui pourraient y prétendre.
Pour en dire encore un peu plus sur cet écart entre les représentations et la réalité, vous l'avez cité, cette idée reçue sur la fraude aux prestations sociales, qui est une réalité mais qui représente des montants très largement inférieurs à la fraude fiscale. On parle de 250 millions d'euros pour la fraude dite sociale contre 21 milliards pour la fraude fiscale.
Oui, mais c'est tout à fait représentatif, encore une fois, là, des écarts et à la manière dont le discours politique public peut mettre le projecteur sur des situations très spécifiques, avec souvent des arrière-pensées extrêmement précises. Dans les années 80, le président américain Ronald Reagan avait parlé de ce qu'il appelait la welfare queen, c'est-à-dire la reine de l'assistance qui vivait avec sa Cadillac aux frais du contribuable. Évidemment, c'est des cas individuels qui peuvent exister. Je pense que vous pouviez les trouver dans la réalité de la société des États-Unis des années 80. Mais d'en faire un phénomène social, c'était évidemment une manière de préparer l'opinion à des réformes drastiques à la baisse de ces prestations. Donc il faut toujours s'interroger, à mon avis, sur pourquoi on parle de cet aspect de la situation et pas des autres.
Pour conclure, Nicolas Duvoux, vous diriez qu'aujourd'hui, nos représentations, elles sont encore très marquées par toute une série de clichés, d'idées reçues sur la pauvreté, ou quand même c'est quelque chose qui évolue ?
Non, ça évolue aussi parce que le phénomène, par exemple, du chômage s'est diffusé dans la société, donc il a interpellé la conscience de beaucoup de gens qui voyaient que, bon, finalement, c'était peut-être plus compliqué. Et je dirais qu'en France, on a encore une vision relativement partagée, ambivalente. C'est-à-dire qu'il y a les signaux dont vous parlez, les profiteurs, les assistés, etc. Et en même temps, vous avez un soutien à la solidarité qui reste malgré tout fort et qui fait qu'on ne peut pas considérer que notre société a complètement basculé de ce point de vue-là.
Bien, on va en continuer à en parler toute cette semaine. Mais en attendant, il est 14h51 sur France Culture, l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffany, bonjour à tous.
Vous nous parlez aujourd'hui de la chute du fameux verrou de Bercy.
Oui, ou en tout cas de ce que l'on nous présente comme tel. Car en réalité, ce dispositif qui offre à l'administration fiscale le monopole des poursuites en matière de fraude tient toujours solidement. Mis en place dans les années 20 à la suite de la création de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ce mécanisme vise à retarder le déclenchement des procédures judiciaires, même en cas de fraude avérée. Le but est de négocier le rapatriement des avoirs ou le paiement des sommes dues sans aller jusqu'à la sanction d'un tribunal. Ainsi, seul Bercy dispose du droit de déposer plainte contre un individu soupçonné de malversation fiscale, pas le procureur et encore moins les associations de lutte contre la fraude fiscale. Mais avec l'adoption au Sénat d'un amendement dans le cadre du projet de loi sur la fraude fiscale, justement, certains dossiers pourront être désormais automatiquement transmis au parquet s'ils respectent trois critères. Il faut que les faits soient susceptibles d'au moins 80% de pénalité, que les droits fraudés soient d'un montant élevé, vraisemblablement plus de 100 000 euros, et qu'ils fassent l'objet d'une récidive avérée ou de comportements aggravants.
C'est donc une part relativement faible des dossiers traités par Bercy.
Oui, on estime que cela concernerait environ 1500 dossiers maximum. Or, l'administration fiscale est aujourd'hui obligée de suivre l'avis de la commission des infractions fiscales si elle souhaite engager des poursuites pénales. Avis qui se fonde déjà peu ou prou sur les mêmes critères et concerne à peu près autant de dossiers. Si on peut se satisfaire au nom d'une transparence de la vie publique que ces règles soient désormais clairement définies, on constate qu'elles ne permettent cependant pas d'augmenter le nombre de personnes touchées par le dispositif. Pour le reste des cas, soit environ 14 000 dossiers, l'administration fiscale conservera la haute main et continuera de jouer sur la peur du juge pour faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État.
Et Arjuna, la loi en discussion au Parlement prévoit aussi d'instaurer ce que l'on appelle un plaidé coupable en matière fiscale.
Exactement, comme l'explique un article de Mediapart, cela signifie concrètement que les fraudeurs pourront toujours négocier une amende qui leur permettra d'éviter la case justice. Et c'est bien sûr l'élargissement de ce principe du plaidé coupable au domaine fiscal qui a convaincu l'exécutif de réformer le verrou de Bercy. Ok pour établir une forme d'automaticité des poursuites, mais à condition que les fraudeurs puissent continuer d'échapper à la justice traditionnelle. Il ne faudrait pas que la chancellerie vienne se mêler de trop près des affaires de Bercy.
On semble donc loin de la révolution fiscale annoncée.
Oui, le gouvernement et la majorité continuent ainsi de mettre leur veto à des principes pourtant simples de lutte contre la fraude fiscale, comme la capacité pour la justice de se saisir elle-même des dossiers ou encore la possibilité pour les associations de porter plainte. Cela peut même donner lieu à des situations tout bonnement ubuesques. Ainsi, en 2013, si le ministre du budget de l'époque, un certain Jérôme Cahuzac, n'avait pas démissionné, il aurait eu à décider de l'opportunité d'engager des poursuites contre lui-même. Et le parquet de Paris, en ouvrant une instruction à son encontre, a dû se limiter au délit de blanchiment de fraude fiscale, et non de fraude fiscale elle-même, faute d'une plainte préalable de l'administration. En se cachant derrière un impératif bien connu d'efficacité économique, le pouvoir donne en réalité l'impression d'une justice à deux vitesses. On rappellera qu'en France, la fraude fiscale est théoriquement passible d'une peine allant jusqu'à 5 ans de prison et 500 000 euros d'amende, mais seulement si Bercy le veut bien. Il est en effet curieux de demander à l'administration en charge des finances du pays d'arbitrer entre l'opportunité de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État et la nécessité de faire appliquer la même justice à tous les citoyens. En réalité, l'existence même de ce verrou de Bercy ne fait que renforcer le sentiment de deux poids, deux mesures, alors qu'un rapport du principal syndicat des impôts rappelle que la fraude fiscale atteint en France près de 100 milliards d'euros et alors que le gouvernement prévoit de supprimer jusqu'à 20 000 postes dans l'administration de Bercy. Une question de logique économique donc.
Samedi, le week-end commence. Pour préparer sa soirée, il se promène de porte en porte en cherchant chaussures et pantalons, une chemise, une cravate, quelques jetons dans sa poche. C'est la fête qui commence. Samedi, le week-end commence. Pour préparer sa soirée, il se promène de porte en porte en cherchant chaussures et pantalons, une chemise, une cravate, quelques jetons dans sa poche. C'est la fête qui commence.
On se quitte avec Amadou et Mariam, pauvre type. Merci beaucoup Nicolas Duvoux, professeur de sociologie à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et auteur du « Que sais-je, les inégalités sociales » paru au PUF l'année dernière. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.
Le boutiquier, tu t'es agrédit.